Chapitre 56. La forteresse de l'étoile dodécagonale. La nuit était tombée sur le Birthday. Tout va bien ? S'inquiéta Zizo. Alix et lui se promenaient sur le chemin de garde de la forteresse de l'étoile et atteignaient l'entrée de leur nouveau refuge, gardé par Florentine, Wayne et Cheyenne.
Rien à signaler,
fit Florentine en balayant les alentours avec la lampe laser que Zizo lui avait confiée.
Ils doivent tous être occupés à fêter la victoire et à préparer le spectacle de minuit. C'est à partir de demain qu'il faudra se méfier.
Qu'ils essaient d'attaquer, assura Wayne. On sort à les recevoir. On est armés et préparés.
Zizo hocha la tête pour confirmer. Les 24 résistants n'avaient quitté le donjon que depuis quelques heures, mais ils n'avaient pas perdu de temps. Zizo avait repéré depuis longtemps cette citadelle proche de Paris, en forme d'étoile dodécagonale, avait précisé Liu, c'est-à-dire à 12 côtés. Elle surplombait Paris, en à-pic au-dessus de la Seine, entourée de versants boisés abrupts rendant toute attaque par surprise impossible. Les rebelles s'y étaient installés, barricadant l'unique entrée. Si Eugénor décidait de les sortir de là, de force, ils devraient en payer le prix. Alix et Zizo poursuivirent leur ronde, observant le panorama qui s'étendait devant eux. Des centaines de réverbères éclairaient le fleuve, les plus grandes places et les plus belles avenues. Paris était redevenu la ville-lumière. Les moulins de la capitale, ces fameuses micro-éoliennes, tournaient à plein régime. Ils se laissèrent hypnotiser quelques instants par les illuminations, puis achevèrent rapidement leur tournée d'inspection pour retourner à la chaleur et sous la lumière du grand feu dressé au centre de la forteresse. La plupart des résistants s'étaient regroupés près du foyer, dans une vaste cour protégée par de hauts murs. Dans la lueur des flammes, tout paraissait orange, la couleur des briques comme la fine poussière de terre sur laquelle table et chaises avaient été installées. Les 5 savants dissidents, Liu, Lunella, Valère, Braza et Osman, étudiaient avec attention l'ensemble des éléments qu'Alix et Zizo avaient mis à leur disposition. Tout ce qu'ils avaient pu emporter du laboratoire, Utopie, des cartes, des plans, des manuels, des comptes rendus de réunions, des rapports scientifiques, de gros cahiers de formules ou de programmes informatiques. Alix et Zizo avaient compris que, dès qu'ils accuseraient Eugénor en public, l'accès au laboratoire Utopie leur serait interdit. La première chose dont s'assurerait l'empereur serait que personne ne puisse entrer sous la coupole de l'Observatoire de Paris. Il était vraisemblable qu'il fasse aussi disparaître toutes les preuves de la culpabilité de Marie-Lune et de la nouvelle évolution originelle. Essayer de retourner au laboratoire et d'y entrer, même à 24, aurait été suicidaire. Alix et Zizo avaient donc rempli 2 sacs à dos de documents, ramassés au hasard, et maintenant, au boulot les savants.
Vous aviez raison,
fit Liu, aussitôt qu'Alix et Zizo s'approchèrent, sans leur laisser le temps de profiter du feu de camp.
Tout a commencé avec la découverte de cette roche nouvelle, la Pandorite. Elle porte sacrément bien son nom. Je pense que celui qui l'a baptisée se doutait qu'elle contenait tous les maux de la Terre. Sauf l'espoir,
nuança Valère.
Si tu veux, dit Liu. Il lui a donné le numéro atomique 119, ce qui signifie qu'elle a été découverte il y a moins de 20 ans, soit moins de 3 ans avant le lancement de la nouvelle évolution originelle. C'était un peu court pour en connaître toutes les propriétés. Je crois que Marie-Lune, Pierre Sols, Silver Forestier et les autres se sont comportés comme Pierre et Marie Curie avec le radium, l'uranium et le polonium.
Avec quoi ? Allait demander Zizo, mais il se retint.
Ils ont découvert la puissance fantastique d'un nouvel élément, mais ils ne s'en sont pas assez méfiés. Comment Marie Curie aura-t-elle pu se douter que le radium empoisonnait son sang et qu'elle allait mourir d'une leucémie ? Le mot « radioactivité » n'existait même pas. Oh, que sa découverte servirait à fabriquer la bombe nucléaire, ajouta Valère.
Tout juste, confirma Lunella. Sauf que Marie-Lune a vraiment osé déclencher sa bombe nucléaire.
Liu pencha en direction des flammes le cahier qu'il tenait à la main. Tous découvrirent des formules mathématiques et des équations complexes auxquelles, évidemment, ils ne comprenaient rien.
Et vous aviez également raison pour la sublimation,
fit le scientifique à lunettes.
C'est le procédé qu'ils ont utilisé. La roche jaune, cette fameuse pandorite, a été chauffée jusqu'à une pression inférieure à son point triple pour être transformée en gaz, le pandorium.
À l'exception des savants, tous ouvraient des yeux ronds.
Le point triple, expliqua Liu, est le point précis où les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux, peuvent coexister. Mais ça ne marche que pour les corps purs et la pandorite en est un. La pandorite à l'état solide n'est pas réellement dangereuse, mais les propriétés de ce pandorium défient l'imagination. Et les scientifiques d'Utopie les ont largement sous-estimées. Même la respiration cutanée s'est révélée mortelle, plusieurs jours après la dispersion du nuage.
Lunella approcha de la lumière du foyer un autre cahier contenant des croquis et des algorithmes dans un langage informatique inconnu.
« Je n'ai pas encore tout décodé, » expliqua-t-elle. « Mais ces notes semblent confirmer que 8 points de diffusion du gaz ont été installés dans Paris. »
« Les 8 moulins sublimes ?» murmura Zizo.
Exact. L'ensemble commandé depuis le laboratoire Utopie, avec évidemment la possibilité de tout activer ou désactiver de façon manuelle.
Et ces moulins, demanda Alix,
ils ressemblent à quoi? À tout et à rien. Mais pas forcément à des moulins, pas comme on les imagine du moins. Quant à leur taille, les turbines qui fournissent l'énergie peuvent ne pas être plus grosses que des boîtes à chaussures.
Et histoire de compliquer l'affaire, compléta Haussmann, nous n'avons aucune idée de l'endroit où ils sont cachés.
Braza et Haussmann, pendant l'exposé de Liu, avaient étalé plusieurs cartes de Paris. En fonction des indications d'Alix et Zizo, ils avaient tracé différentes lignes ressemblant à des ailes de moulin, toutes centrées sur le sanctuaire.
On ne manque pas d'hypothèses,
précisa Braza en suivant les différents segments du bout du doigt.
Les moulins sont peut-être alignés selon quatre axes. Le plus logique serait qu'ils soient tous séparés par un angle à 90 degrés, mais rien n'est sûr.
Leur localisation doit être liée à une certaine symbolique, ajouta Haussmann. On va recenser tous les anciens moulins de Paris, il y en avait plus de 300, et on verra.
Braza reprit la main devant un valet impressionné.
L'observatoire de Paris, où Marie-Lune a installé son labo, est situé sur le méridien de Paris. Ce n'est peut-être pas un hasard. Et une fois qu'on les aura trouvés, affirma Haussmann, toujours penché sur la carte, il ne restera plus qu'à les détruire. Et c'est bien ça le plan, Liu. Oui, car si j'en crois les documents qu'Alix et Zizo ont récupérés, le pandorium est si puissant qu'un seul moulin sublime réactivé suffirait à tous nous asphyxier. Il n'y a aucune raison de penser que ces moulins ne sont plus en état de fonctionner. Les archives du labo mentionnent un objet qui permettrait de les réactiver et peut-être de les détruire, le sublimateur.
Les Lolly Girls s'étaient rapprochées. Suzy se fit la porte-parole du groupe.
Rassurez-nous, cette histoire de sang jaune, version liquide de la pandorite, qu'Ogénor aurait balancée dans la nature, c'était une blague pour nous faire peur.
Je crains bien que non, répondit Alix.
L'adolescente n'arrivait pas à y croire.
Et pourquoi Ogénor redéclencherait-il le nuage? Il en mourrait, comme tout le monde.
Sauf, répliqua Zizo, s'il se croit plus malin, comme sa maman, et qu'il pense pouvoir le contrôler.
Ils restèrent un long moment pensifs, conscients de l'importance et de la dangerosité de la mission qui les attendait.
Eh bien,
fit Lunella, motivée,
on sait ce qu'il nous reste à faire. S'emparer de ce sublimateur. Trouver ces 8 foutus moulins sublimes, en faire de la bouillie jaune qu'on enterre très loin sous terre, et ensuite déloger Ogénor du labo de sa maman chérie. Je le ferai, je vous le promets, en mémoire de Solario.
Liu se leva, retira ses lunettes, cligna ses yeux bridés, et jura lui aussi.
Moi aussi je le ferai, en mémoire de mes parents.
Alix, dans le secret de l'obscurité, se mordit les lèvres. Avec Zizo, harcelés de questions, ils avaient été contraints de révéler aux résistants du château l'identité de leurs parents. Ils s'étaient excusés de ne pas avoir emporté les dossiers de chaque enfant. Ils ne s'en étaient pas sentis le droit, et surtout avaient privilégié, dans l'urgence, tout ce qui concernait les moulins sublimes, la pandorite et le passage du nuage.
« Déloger Ogénor du labo !»
répéta Valère.
« Rien que ça. On n'est quand même que 24 contre le reste du Nouveau Monde nouveau. »
Faudra contacter Constel et lancer un appel à la résistance, comme le général de Gaulle le 18 juin 1940 et...
Goûte-moi ça.
Avant d'avoir fini sa phrase, l'historien se retrouva avec une cuillère en bois dans la bouche. Sabi venait de surgir, flottant dans un parfum de rose aux fines nuances boisées. Charlène 17. Sabi avait quasiment vidé le flacon sur elle, tellement elle avait été fière d'apprendre que sa mère était comme elle, une femme libre et rebelle. Charlène, sa jumelle de 17 ans, une femme à qui on avait volé sa jeunesse, à qui on avait interdit de vieillir. Du coup, Sabi s'était promis de profiter deux fois plus de la vie, de vivre à 200% pour elle et pour sa maman.
« Délicieux, mais chaud !»
souffla Valère, rougissant autant que s'il avait avalé un piment. Sabi retira la cuillère, lui arrachant presque les longs haricots verts de la bouche.
« Ce sont des salicornes !» expliqua-t-elle. « Cueillette spéciale de Philao et recette spéciale d'Honora. Allez, à table !»
Dans la grande cour de la forteresse de l'Étoile, les résistants avaient décroché des portes et les avaient posées sur des tréteaux pour former une longue table de banquet.
« Allez hop !» ordonnait Sabi. « On s'assoit et on ne s'occupe plus de rien. Même toi, Honora ! Même toi, Lupa ! Viens nous rejoindre !»
L'ado Louve, depuis l'arrivée dans la forteresse, se tenait à l'écart du groupe, ne parvenant pas à assumer son statut de leader de la résistance, et encore moins cette captivité forcée dans la forteresse de Décagonale.
« On profite à fond !» insistait Sabi. « Demain, Nonor Ier fera peut-être charger sa cavalerie et on ira rejoindre les autres millions de squelettes des catacombes. Alors, si ce soir est le dernier, il ne reste plus qu'à s'amuser. »
Elle vérifia que tout le monde, y compris Lupa et les cuisiniers, était assis autour de la table, puis claqua dans ses doigts. Les assiettes, les verres, les couverts, les plats et les carafes de jus de fruits apparurent comme par magie, portés par sept privilégiés.
« Sam, Dim !» commandait Sabi. « Servez Luponera en premier et Gulo Gulo en dernier, sinon il va tout dévorer !»
Elle tira Sam par la manche et lui chuchota à l'oreille.
« Et tu me sers les deux pains bêches, là-bas » elle désigna du regard Olympe et Minerva. « Encore après, et seulement si tout le monde en a eu assez !»
Sam adressa un clin d'œil complice à la Lolly Girl. Il avait tout compris. Les privilégiés ne parlaient pas encore d'autre langue que celle des Prémas, mais saisissaient de mieux en mieux ce qu'on leur demandait. Après avoir écouté les échanges entre Génor, Luponera, Zizo et Alix, ils n'avaient pas hésité longtemps et avaient rejoint les résistants dans les rues de Paris. Les plats défilaient, des purées gratinées de pommes de terre nouvelles, des chips de betterave, des gratins de navets sauvages. Les rires fusaient. On voulait oublier l'avenir, on voulait oublier l'Empire, le temps d'une soirée. Après le dessert, Mano et Matifou se levèrent et saisirent chacun leur guitare. Ils n'avaient jamais joué ensemble et pourtant, immédiatement, leurs 12 cordes s'accordèrent pour inventer un mélange de New World et de flamenco manouche. Les deux musiciens semblaient noyer leur nostalgie dans la musique. Matifou, pour avoir perdu les autres membres de son groupe, Mano, pour avoir perdu sa sœur de cœur. Agnelle écoutait, Suzy chantait. Sabi manqua de renverser la table en attrapant Akane par le bras.
« Viens danser, mon géant !»
Il ne refusa pas. Il ne lui refuserait rien ce soir. Il apprendrait même à s'amuser. Mano et Matifou improvisaient au même rythme. La musique accélérait sans cesse, tantôt primitive, rappelant des airs anciens presque oubliés, tantôt inventive, rappelant les innovations les plus délirantes de la New World. Les Lolly Girls, comme aimantées, entrèrent dans la danse. Lunella invita le pauvre Liu, qui, malgré son genou bandé, n'osa pas protester. Cheyenne, franges au vent, attrapa Wayne, qui en abandonna son chapeau. Leonarda laissa tomber ses pinceaux pour entraîner les longues jambes d'Osman. Florentine prit la main de Philao, qui dut lâcher ses râteaux. Les couples se trémoussaient comme au plus beau des bals. Un bal sous les étoiles. Valère s'arma de courage, embarqua Brasa et alla se planter au bout de la table devant Minerva et Olympe. Les deux singes levèrent des yeux méfiants et méprisants. C'était la première fois depuis qu'elles avaient quitté le donjon que deux résistants leur adressaient la parole. Même si l'historien boutonneux et son copain muet au gros bras n'étaient pas forcément les cavaliers dont elle rêvait. Elles finirent par accepter. Sabi cria plus que les 12 corps des Suzy réunis.
« Eh oh, les nains! On débarrassera tout ça après! Venez danser avec nous !»
Elle adressa un nouveau clin d'œil à Steve, qui attrapa la main de Sam, puis celle de Dim, puis celle de Lundi. En une seconde, 7 privilégiés terrifiés se retrouvèrent eux aussi à former une folle farandole, au rythme toujours plus rapide de 2 guitares électrisées. Dans quelques minutes, les 12 coups du birthday sonneraient.